Alors que le Seigneur soit béni, il m'a permis de préparer un nouveau message, alors que au départ, bien sûr, comme c'est le frère Jérémy qui devait apporter le message aujourd'hui, eh bien, voilà, j'ai été surpris, mais bon, j'avais deux, trois messages là que j'ai donnés ailleurs et que je pouvais très bien vous apporter ce matin. Mais finalement, j'ai eu à cœur quand même de travailler partiellement au moins un autre aspect de la parole. Et donc j'ai pris dans l'Épître aux Colossiens, avec ce titre de message, former un seul corps. Épître aux Colossiens, chapitre 3, versets 14 et 15. Et je dois dire que je le donne dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est-à-dire que nous sommes ici réunis à Lambersart. Une partie de nos frères et sœurs donc sont restés chez eux pour diverses circonstances, et une autre partie s'est joint à une autre assemblée pour la présentation donc d'une enfant, une enfant de leur famille. Et il est bon que nous ayons, bien sûr, des communions entre les assemblées de diverses manières. Là, c'est par des liens familiaux. Parfois, c'est tout simplement parce que nous connaissons des frères et sœurs d'autres assemblées. Et nous avons des échanges, comme c'était le cas hier soir avec l'Assemblée de la Madeleine, l'Assemblée d'Allouin, qui avait organisé avec nous cette lecture biblique. Et puis, voilà, comme nous avons avec nos frères péruviens qui ont sollicité le prêt de notre salle pour leur culte. Voilà, toutes des communions qui s'établissent de cette manière parce que nous faisons partie de la même foi. Hein. Tout simplement, nous partageons, nous avons tous, comme il est dit dans l'Épître aux Éphésiens, une même... Alors, il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et cela, nous le reconnaissons. Donc, que tous ceux qui partagent la foi en Jésus-Christ, dans l'obéissance à sa parole, eh bien, sont nos frères et sœurs, nous sommes en communion avec eux et nous nous assemblons avec eux dans la mesure de, voilà, des circonstances. Mais il est bon que chacun soit attaché à un corps local. Nous formons tous ensemble le corps de Christ, mais nous avons aussi notre lieu propre de rassemblement et de communion. Ça s'appelle l'Église local. Nous formons un seul corps. Mais un seul corps, donc, sur le plan universel et sur le plan local. Alors ici, dans cette parole de Colossiens, chapitre 3, versets 14 et 15, il est écrit « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. » Tout a démarré de la paix de Christ, la paix faite par Christ à la croix du calvaire. Donc nous pouvons, voilà, à nouveau ouvrir notre horizon sur cette Église universelle, comment le Seigneur l'a constituée. Nous avons été appelés, il dit, à la paix de Christ. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés. Nous avons été appelés à la paix de Christ. C'est cette paix qui réunit tous les hommes. Et quand je dis tous les hommes, je dis plutôt tous les croyants. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 14, d'abord, ce sont deux épîtres qui se rejoignent beaucoup, Éphésiens et Colossiens, adressé justement aux églises locales. chapitre 2, mais avec la perspective, enfin, l'ancrage dans l'œuvre fondamentale du Seigneur. Et donc le verset 14 de ce chapitre 2, « Car il est notre paix, Seigneur Jésus-Christ, il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, le conflit. Le Seigneur a fait la paix. Et au verset 16, et de les, donc, enfin, je vais lire quand même le verset 15, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et les réconcilier avec Dieu l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié, la haine, le conflit. Donc dans son processus de révélation, le Seigneur, dans sa sagesse, avait établi une distinction au sein des peuples. Il avait séparé un peuple, une nation, en lui donnant sa loi. Il est question là des ordonnances, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. C'est ce que Dieu a donné par Moïse au peuple d'Israël. Les autres peuples restaient dans l'obscurité, sauf à se rallier au peuple juif et à sa loi comme le faisaient les prosélytes. Il y avait des prosélytes de longue date avant même la venue de Christ, parce que Moïse était prêché à cause de la dispersion des juifs parmi les nations, les synagogues, etc. Les nations, les peuples des nations entendaient la loi de Moïse et certains se joignaient au peuple d'Israël par la foi. Ils devenaient membres de ce peuple, ils se faisaient circoncire, ils adoptaient la loi et les coutumes d'Israël. C'était les prosélytes. Il fallait qu'ils se joignent à ce peuple, sinon ils restaient étrangers aux alliances de la promesse. Puis, le Seigneur de tous, le Seigneur qui a donné la loi, apparut dans la chair. « Né d'une femme, né sous la loi, dit l'apôtre, c'est-à-dire au sein du peuple instruit par la loi. » Et tout en paraissant au sein de ce peuple, il n'a pas seulement paru pour ce peuple, c'est ce que vous connaissez bien au commencement de l'Évangile, lorsque les parents de l'enfant viennent le présenter au temple et le faire circoncire. Siméon, qui avait été divinement instruit par le Saint-Esprit, était venu au temple averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu, et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Donc le Seigneur Jésus ne paraît pas seulement pour le peuple d'Israël, il paraît pour être la lumière des nations, salut préparé devant tous les peuples. Seulement, cette extension du salut à tous, cette réunion des croyants sous le regard de Dieu, n'a pas été décrétée au mépris de ce que Dieu avait donné premièrement. Dieu n'a pas écarté sa loi à un moment donné et tous les symboles qu'il avait donnés dans l'histoire d'Israël. Si ça avait été le cas, si ça avait été son intention, il aurait fait naître son fils parmi les incirconcis, chez les païens. Peut-être à l'autre bout du monde. Pourquoi est-ce que Jésus, le Christ, apparu en Israël et n'est pas né chez les Incas, par exemple? Cela aurait été possible si Dieu avait abandonné son premier plan, en quelque sorte, et puis établi un second plan, hein, un plan B, comme on dit maintenant, parce que le premier n'aurait pas été suffisant ou bien compris. Non. Le petit enfant Jésus est déclaré lumière des nations et gloire d'Israël au moment de sa circoncision et de sa présentation au temple, au sein du peuple choisi. Ainsi, la loi n'est pas écartée. Au contraire, elle est pratiquée et elle annonce elle-même son dépassement par une opération sanglante qu'est la circoncision. La mère de l'enfant Jésus reçoit cela en plein cœur par ses paroles « Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Oui, toute la loi visée, on va raccourcir, mais toute la loi visée à la mort de Christ, à son sacrifice à la croix. Et c'est seulement par le sang de la croix que le salut d'Israël et de tous les peuples est révélé. C'est déjà contenu dans la circoncision de Christ. Du coup, Israël doit renoncer à une justice légale qui n'intégrerait pas la croix. Ce que, justement, les chefs juifs ont refusé. Ils s'en sont tenus à la loi, mais une loi sans la croix. Or, pour que la loi s'accomplisse totalement, il fallait la croix, le sacrifice suprême du juste. Et inversement, les peuples doivent regarder au crucifié pour voir s'ouvrir tout le champ des promesses faites à Israël. La croix de Jésus-Christ, c'est l'aboutissement des promesses de la loi et c'est le commencement des promesses pour ceux qui n'ont pas la loi. Dit autrement, Israël se trouvait en terre promise sans encore la posséder. C'est la croix qu'il a leur offre. Et les païens entrent en terre promise par la croix. La foi en Jésus-Christ, c'est le lieu de rencontre de tous, juifs et grecs, juifs et gens des peuples. C'est la réconciliation avec Dieu pour tous et à partir de ce moment-là, la constitution d'un seul corps de croyants dans le monde entier. C'est ce que Pierre va dire, je n'ai pas noté la référence, mais on peut, je pense, assez facilement la retrouver au début de l'épître de Pierre. Chapitre 2. Justement, au sujet, si on prend à partir du verset 6, comme, car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Pierre parle des Juifs, là. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Oui, maintenant, nous sommes tous juifs et gens des peuples au bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Et au bénéfice aussi de la plénitude qui est en Jésus-Christ. Car toute plénitude habite dans ce Fils qui est mort et ressuscité pour nous. Donc nous bénéficions du pardon des péchés par la mort de Christ à la croix du calvaire. Son sang nous lave et nous purifie. Mais pour faire partie du corps de manière bien réunie, bien coordonnée, être intégré totalement à ce corps, eh bien, il y a la condition de notre propre circoncision de cœur. Nous devons renoncer à nous-mêmes et nous attacher au chef, à Christ, qui est la tête du corps. Ainsi, à ce moment-là, nous pouvons commencer à fonctionner, non à partir des membres que nous sommes, mais à partir de la tête. La tête couvre le corps et le commande. Or, la tête, le chef, c'est Christ, et Christ s'est manifesté dans la plénitude de l'amour de Dieu. Et il est toujours la manifestation de l'amour de Dieu, de sa sagesse, de sa justice, de sa puissance. Et c'est pourquoi, je pense, l'apôtre, donc dans l'Épître aux Colossiens que je vous dis, que je vous ai lu, commence « Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection et que la paix de Christ règne dans vos cœurs. » Juste auparavant, il a fait une exhortation qui concerne la manière d'être en relation les uns avec les autres si nous sommes dans la foi en Christ. Si je prends à partir du verset 9, « Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, plusieurs fois, revêtir l'homme nouveau, revêtir. Revêtez-vous de sentiments, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tout cela est nécessaire. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Le pardon, la compréhension mutuelle, l'humilité, la douceur, ce n'est pas encore la plénitude. La plénitude, c'est l'amour pur de Christ. C'est cet amour-là que nous devons revêtir. Nous devons revêtir Jésus-Christ, l'homme nouveau. Nous revêtir de son amour dans l'esprit, par l'esprit. Et à ce moment-là, eh bien, nous formons vraiment ce corps de Christ qui est assemblé par lui, qui est formé par lui, qui est réuni par lui et qui le glorifie dans ce monde. Nous formons un vrai corps si nous marchons dans une foi qui met Jésus-Christ vraiment au-dessus de nous, sur nous. Là, nous formons un vrai corps. C'est une réalité, mais c'est aussi une exhortation. À l'instar de toutes les instructions des apôtres, tout simplement parce que nous ne sommes pas des automates, mais des hommes libres en Jésus-Christ. Donc il y a cette vérité qu'en Jésus-Christ, nous formons un corps dont il est la tête et qui peut nous donner la plénitude. Mais pour vivre cette plénitude, pour vivre cette communion dans le corps, cette unité dans l'action, dans l'adoration du Seigneur, dans le témoignage, dans les œuvres, il nous faut, bien entendu, exercer notre foi, renoncer à nous-mêmes et mettre Christ au-dessus de tout. C'est lui qui pourra réaliser cette chose merveilleuse qu'est l'unité du corps. C'est une réalité universelle, mais c'est aussi une réalité locale. Chaque église locale est le corps de Christ à elle seule. Parce que celui qui a une part a le tout. Si nous avons Christ, reçu Christ par la foi, que nous sommes une partie de son corps, eh bien nous sommes également la plénitude de son corps si nous marchons dans la communion avec la tête. Et cela commence par deux ou trois assemblés au nom du Seigneur, comme Jésus le présente dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 18. Si deux ou trois s'accordent pour demander une chose quelconque, ils la recevront. Parce que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, déjà là, c'est l'Église. Mais le but, ce n'est pas de rester deux ou trois, mais de former une Église où de nombreux dons de Christ peuvent être manifestés. Et lorsque l'Église s'accroît en nombre, elle peut et elle doit rester dans la même unité, la même force de cohésion que lorsqu'il y en a deux ou trois. Je dirais que c'est assez facile de s'accorder à trois et de ressentir une pleine unité. Mais lorsque en viennent cinq ou dix ou cent, le même principe est à l'œuvre. Le Seigneur s'attend au même accord et au même rassemblement que lorsqu'il y en a deux ou trois. À quoi servirait-il d'être cent si c'est pour vivre chacun sa foi séparée, ou former une multitude de petits groupes qui finalement se reconnaissent, oui, d'accord, comme appartenant au corps de Christ, mais ne vivent pas la vie de prière, l'étude de la parole, le témoignage, les œuvres ensemble. Lorsque le Seigneur dit « Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux », mais qu'il y en a dix, le Seigneur s'attend à ce que les dix se rassemblent et à ce qu'ils soient au milieu d'eux. Et lorsqu'il y en a cent, il s'attend à ce que les cent se rassemblent et qu'ils soient au milieu d'eux. La communion que le Seigneur crée entre ses enfants doit se pratiquer au prorata du nombre qu'il donne à l'Église. Alors bien sûr, il y a toutes les circonstances, les réalités de la vie quotidienne, le travail, le logement, et puis les difficultés, les faiblesses personnelles, etc., qui font que ce rassemblement et cette cohésion du corps ne peut pas se manifester dans l'absolu tel que nous la voudrions ou tel que le Seigneur la veut. Et nous restons des membres à part entière du corps de Christ et de l'Église locale, même dans nos faiblesses, même dans nos frictions, même dans nos découragements, même dans nos circonstances de vie qui nous empêchent de venir, etc. Mais l'Esprit qui nous rassemble, l'Esprit qui a fait de nous un seul corps, l'Esprit qui nous a réconciliés avec Dieu pour former un seul corps, est toujours le même. Et il vise à l'unité physique et morale et d'action de ses enfants. Et lorsque cette unité se manifeste, eh bien, il y a un beau fruit à la gloire de Dieu. Il y a un beau témoignage de l'action toute-puissante de sa grâce parmi ceux qui ont reçu sa parole. C'est pourquoi je vous invite vraiment à former ensemble ce corps. Imaginons qu'il n'y ait plus aucun autre chrétien dans le monde et que nous formions ici à Lambersart la seule assemblée qui connaisse encore l'Évangile. Combien il serait capital, urgent, déterminant de rester bien soudés les uns aux autres pour ne pas perdre ce qui nous a été donné. Bien entendu que ce n'est pas le cas, et dans le monde entier, le Seigneur, justement, continue de se révéler et de rassembler ses enfants. Mais chaque église locale doit vivre cette communion au maximum de la plénitude que le Seigneur lui promet. Et cette plénitude, elle n'est qu'en Christ lui-même. Elle n'est que dans la communion avec Jésus-Christ. Ce n'est pas le fait de vouloir absolument être bien les uns avec les autres humainement. C'est le fait d'être tous ensemble attachés à Christ. Et lui, il va pouvoir faire cette œuvre en nous et au milieu de nous, et qui va déborder autour de nous. Parce qu'il faut toujours avoir à l'esprit, bien entendu, que le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, et qu'il va continuer à le faire. Mais justement, cette Église à laquelle il a ajouté chaque jour ceux qui étaient sauvés, initialement, nous la voyons être en permanence rassemblée, dans le même lieu, dans le temple, mais aussi dans les maisons, donc pas forcément tous dans la même maison, hein, mais tous rassemblés autour de quatre réalités, hein, les prières, l'enseignement des apôtres, la communion. Alors, attendez que je le mette dans le bon ordre. Qu'est-ce qui pourrait le donner dans le bon ordre, hein? Les quatre éléments qui apparaissent pour l'Église locale dans les Actes des Apôtres. Alors, ils persévéraient dans alors, l'enseignement des apôtres, voilà, apparaît en premier, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. De là, un rayonnement et la proclamation aussi de la parole autour et le Seigneur qui ajoute à l'Église. Donc que ce soit le cas parmi nous. Et s'il n'y a, parce que, bon, on ne sait pas comment va encore évoluer cette épidémie et quelles sont les circonstances dans les temps qui viennent, qui empêchent, bien, qui ont empêché et qui peut-être empêcheront encore, on ne sait pas, les temps, on peut dire, conviviaux. Eh bien que, au moins, sur le plan du rassemblement spirituel, de la prière, de la communion d'esprit, de l'étude de la parole, hein, et de la célébration, bien sûr, du culte, la louange du Seigneur qui s'est donné pour nous, eh bien que ce soit là les choses qui restent vraiment, que nous travaillons au maximum pour pouvoir être dans cette communion de foi, d'obéissance au Seigneur et ainsi progresser ensemble dans sa connaissance et être des témoins dans ce monde. Que le Seigneur nous donne cette vision d'une Église unie, forte dans la foi et dans son obéissance et dans sa communion, la communion de ses membres. Dans l'adoration, dans les prières, dans l'étude de la parole et également dans le témoignage extérieur. Amen.